La version de Jean Palot de La Montagne, succès de Jean Ferrat sur Grand Sud FM, 14h07, bon après-midi à vous toutes, à vous tous. Nous sommes tout au long de ce week-end en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne et nous y allons tout de suite retrouver Lisa et une première invitée. Bonjour Lisa.
Bonjour Jean-Michel, et oui, nous sommes en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne, c'est sur le cours Mirabeau, c'est en ce moment, donc vous pouvez nous rejoindre, il fait un petit peu chaud. Heureusement, on vous offre de jolis éventails, donc vous pouvez venir nous rejoindre et vous allez pouvoir notamment rencontrer Sonia Liu. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors Sonia, vous êtes diplômée d'un master en psychologie et d'un diplôme en criminologie, d'où vous vient votre passion pour les faits divers?
Alors je dirais qu'elle est apparue à peu près au moment de l'adolescence parce que ma mère écoutait beaucoup de reportages sur les affaires criminelles françaises et moi j'écoutais en douce et ça a commencé à créer une curiosité de ma part qui n'a fait que s'amplifier avec après les études en psychologie.
Donc vous partagez votre intérêt hein, pour ces histoires de faits divers sur votre chaîne YouTube qui compte bientôt 300 000 abonnés, c'est quand même pas mal, félicitations. Comment vous en êtes arrivée à raconter ces histoires sur YouTube ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma formation en criminologie, c'était un an d'études à distance, donc j'avais du temps chez moi. Et je me suis dit, j'ai envie de partager un petit peu cette passion avec d'autres personnes intéressées. Pourquoi pas faire des vidéos où justement je vais raconter des faits divers, mais essayer d'aller creuser un petit peu plus la psychologie et un peu la vulgariser. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manquait un petit peu aux émissions criminelles. Donc j'ai commencé à faire ça avec aucune ambition et puis ça a fonctionné beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais et c'est finalement devenu mon métier.
Voilà, et puis vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque récemment vous avez publié plusieurs ouvrages il me semble.
Oui c'est ça, alors le plus récent c'est La malédiction du Cécile Hôtel chez Robert Laffont et avant j'ai déjà eu une autre expérience chez Marabout avec les enquêtes de Sonia Liu.
Donc deux livres que vous pouvez retrouver sur le Salon du Livre du Grand Narbonne. Votre dernier livre, du coup, La malédiction de Cécile Hôtel, vous pouvez nous le présenter un petit peu de quoi il s'agit?
Alors c'est une histoire absolument fascinante puisque le Cécile Hôtel, il va avoir bientôt 100 ans. Il se situe en plein milieu de Los Angeles dans un quartier qui s'appelle Skid Row, qui est assez tristement célèbre pour être très mal famé. Et cet hôtel, il a une histoire incroyable puisqu'il y a beaucoup d'affaires criminelles qui se sont déroulées ou en tout cas qui y sont rattachées. Donc c'est ce que je raconte dans le livre.
Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir Sonia Liu sur le Salon du Livre du Grand Narbonne, sur le cours Mirabeau de Narbonne pour découvrir cette histoire mystérieuse, on peut le dire. Et pourquoi vous avez choisi cette histoire en particulier d'ailleurs?
Alors parce que c'est une histoire qui m'a toujours fascinée et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le fait qu'il y ait plein d'affaires criminelles à différentes époques qui s'entrecroisent dans cet endroit-là. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a cet hôtel pour qu'il y ait autant d'affaires qui s'y déroulent? Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre.
Voilà, donc on invite bien sûr les auditeurs de Grand Sud FM à venir vous voir pour que vous leur racontiez un petit peu toutes ces histoires. Vous avez d'autres projets en cours pour l'avenir peut-être?
Alors pour l'instant, j'ai vraiment envie de me reconcentrer sur YouTube puisque j'y publie des vidéos une fois par semaine. Et puis peut-être aussi trouver des nouveaux formats par l'écriture, pourquoi pas dans la fiction et aussi peut-être d'autres formats vidéo.
Donc plein de projets en tête finalement.
Oui, exactement.
Merci Sonia Liu, je rappelle que vous êtes une youtubeuse qui publie chaque semaine des vidéos où vous parlez de faits divers. Et pour votre tout dernier livre, La malédiction du Cecilia Hôtel, vous êtes présente sur le stand numéro 7 du Salon du Livre, sur le cours Mirabeau de Narbonne, au stand Cultura. Allez, dans quelques minutes, on va rejoindre Marilyn avec un nouvel auteur. Et puis je vous laisse avec Jean-Michel.
Merci Lisa, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, on retrouve les bons conseils de nos annonceurs. Il est 14h11. Bon après-midi avec nous sur Grand Sud FM à 14h17 à l'occasion de ce spécial Salon du Livre du Grand Narbonne. On retrouve tout de suite Marilyn avec son invité Vanra.
Sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne, je suis en compagnie de Vanra qui est pionnière, je vais y arriver, du manga français. Vous la trouverez sur le stand numéro 9 avec la librairie BD et compagnie. Bonjour Vanra.
Bonjour, bonjour.
Alors Vanra, vous êtes autodidacte, je sais que vous avez débuté en tant qu'encreuse de comics. Vanra, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'une des pionnières du manga français, parmi les premiers auteurs européens à avoir été publiés dans le registre manga, que ce soit d'ailleurs sur la scène nationale ou internationale. Vous êtes autodidacte, comment en êtes-vous arrivée au manga finalement?
Eh ben, par un grand hasard, parce qu'au départ, j'étais effectivement encreuse de comics américains, mais au tout départ, si on part vraiment sur la toute première profession, j'étais pédiatre ostéopathe, donc absolument rien à voir, avec pas du tout d'études artistiques, études médicales bien carrées. et puis toute la formation qui va avec. Et en fait, à la base, je dessinais surtout pour mes petits patients parce que j'ai une formation qui me faisait interagir sur toutes les déformations du squelette du nourrisson et du jeune enfant. Donc, pour expliquer les pathologies à mes petits patients, je dessinais à chaque fois ce qui leur arrivait. Et puis, je créais aussi mes petites séries, moi, de mon côté. Enfin, c'était même pas des séries, c'est des petites histoires avec, du coup, mes bases... de ce que je savais faire. Et puis j'ai toujours été passionnée finalement de bande dessinée, mais surtout de comics américains, parce que j'ai mon père qui en lisait énormément, tout ce qui est Batman, tout ce qui est Superman. Donc ça, c'est plus ce type de BD là que j'avais connaissance chez moi, plutôt que de la franco-belge. Et à un moment donné, je voulais me perfectionner en dessin, parce qu'encore une fois, ça m'intéressait de vouloir un peu mieux dessiner mes scènes, et puis ne serait-ce que ce que j'expliquais à mes petits patients. Et puis, à un moment donné, du coup, je suis tombée dans le comics à part entière, parce que j'avais demandé conseil à un des auteurs et encreurs de comics, comment il s'y prenait pour faire tel ou tel décor, ce que je n'arrivais pas à faire. Moi, j'arrivais pas à dessiner les arbres, à faire quelque chose de plus réaliste, et j'arrivais pas à dessiner tout ce qui est rochers, pierres, etc., donc mur en pierre, donc édifice. Et puis, à l'époque, on avait ce qu'on appelait encore Messenger, et on avait sur les BD, des fois, les auteurs qui nous marquaient leur Messenger pour les contacter. C'était comme ça qu'on entrait en contact avec eux. Et moi, figurez-vous, j'ai écrit sans attendre de réponse forcément à Inkist, qui est un grand encreur de comics et qui travaille toujours sur les Batman et les Justice League. Et je lui ai demandé comment vous faites pour faire tel ou tel décor, parce que votre rendu, il est incroyable. Et il m'a répondu en me disant t'as un webcam? Je lui ai dit oui. Il me dit tu la mets en route et je te montre comment on fait. Et c'est vrai que de fil en aiguille, du coup, il m'a appris à ancrer à peu près comme lui, ce qui fait que moi, dans mes mangas et dans mes séries, c'est vrai qu'on a un ancrage qui est très présent par rapport à ce qu'on peut attendre dans le manga classique, parce que j'ai la formation d'ancreuse de comics américains. Et puis un jour, lui, il était en retard sur son rendu de planche. Et aux États-Unis, comme c'est des grosses séries, ils ont des pénalités financières de retard parce que les dates de parution sont prévues et on peut pas décaler. Si décalage il y a, les auteurs ont des pénalités de retard. Et à un moment donné, il me dit, oui, je suis en bourre, j'arrive pas, j'étais malade, j'arriverai pas à finir. Et du coup, je lui dis, scanne-moi ta planche, tu me l'envoies, je l'ancre chez moi, je te la rescanne et puis tu la fais passer comme ça, puisque a priori, tu m'as appris à ancrer. C'est l'occasion ou jamais de mettre en pratique ce que tu m'as appris. Et donc, il m'a filé une partie de ses planches que j'ai ancrées. Et au final, il les a envoyées à son éditeur, mais il a bien marqué comme quoi c'était pas lui qui avait tout ancré. Et du coup, il m'a porté au crédit des personnes ayant réalisé le comics. Donc, c'est comme ça finalement que je suis rentrée. C'est par hasard aussi que je suis rentrée dans le comics. Et puis, après, j'ai commencé à travailler à part entière en tant qu'ancreuse, tout en gardant mon cabinet médical. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu, moi, créer mes propres histoires, parce que travailler sur des grosses licences comme Batman, moi, je travaille beaucoup sur Batman et Green Lantern, c'est très intéressant, mais en tant que dessinateur, vous n'avez pas le droit au chapitre. Finalement, les scénarios sont validés par les scénaristes et validés par la maison mère. À partir de là, vous êtes des exécutants, vous illustrez finalement ce qu'on vous impose comme scénario. Et à un moment donné, j'ai eu envie, moi, d'animer mes propres personnages. Et du coup, j'ai commencé à créer mes propres séries à part entière. Sauf que j'ai commencé à créer sur le format comics, parce que c'était ce que j'avais appris à faire. Et là, ça a posé un nouveau problème, parce que moi, je voulais faire des séries dynamiques qui pouvaient se lire comme si on regardait un film, avec la même dynamique d'action, etc. Et le souci, c'est que la BD franco-belge et le comics sont des structures et des supports qui sont très statiques. On peut avoir une scène entière de bataille qui est résumée en une double page, avec, on n'a pas de dynamisme en fait qui est proposé dedans, c'est très contemplatif. Et donc, je suis restée bloquée très longtemps sur ce format-là, jusqu'à ce que je découvre chez une amie qui, elle, lisait du manga, un manga. Et je connaissais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu à quel point ça permettait une liberté de mise en page aussi, parce que la franco-belge ou le comics, on est obligé de faire rentrer l'histoire dans des cases rectangulaires, alors que le manga, au contraire, la mise en page vraiment supporte l'histoire. Elle est tributaire du dynamisme qu'on veut mettre dans l'histoire, elle est tributaire aussi de la patte de l'auteur. On a une liberté totale d'expression à ce niveau-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire.
D'accord, donc justement, c'est le hasard qui vous a amené au manga, et on peut dire que ça vous réussit. Justement, Vanra, on vous doit plusieurs séries, Stray Dog, on vous doit aussi Mortician, qui sont des seinen, ou encore des Ayakashi, un shonen, c'est comme ça qu'on dit?
Alors, seinen et shonen, en fait, c'est comme à l'anglaise, on prononce toutes les lettres.
Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour les gens comme moi qui sont novices côté manga, quelle est la différence entre ces deux mangas?
Alors, en fait, c'est deux catégories qui sont différentes et qui se caractérisent par le rating, c'est-à-dire le public pour lequel elle s'adresse. Un shonen, ça sera quelque chose qui sera plus pour un public un peu plus jeune, donc à partir de 10-12 ans. Après, bon, on peut le dire en étant beaucoup plus âgé, mais c'est vrai qu'on a, des histoires qui s'adressent à des publics un petit peu plus jeunes, et puis des histoires aussi très tournées sur l'action. Sur la progression du personnage et la mise en avant aussi de thèmes tels que le courage, très emphasique. Voilà. Le seinen, c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à un public un peu plus mature par les thèmes qui sont proposés. Alors on est loin des idées préconçues, à savoir on a eu pendant très longtemps, oui, le manga c'est que quelque chose de pornographique ou de très violent. Le seinen, c'est pas parce que ça s'adresse à un public plus âgé que ça va être forcément quelque chose à caractère sexuel ou violent de base. C'est surtout que ce sera les thèmes qui vont être portés dedans qui seront abordés d'une manière plus adulte. Moi, par exemple, dans Stray Dog ou Morticiane, j'aborde les thèmes de la mort, du deuil, de la rédemption. C'est des thèmes qui s'adressent à un public un peu plus mature, à savoir à partir de 14 ans, des thèmes qu'on va peut-être pas aborder, on va dire, de suite, pas parler de la mort et de comment la personne va pouvoir gérer la mort ou le deuil ou la disparition d'un être cher sur un public qui n'aura que 10 ans. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de l'aborder aussitôt.
Oui, bien évidemment, je comprends ce que vous vouliez dire. Donc, c'est toute la différence entre les deux. Il y a une autre différence, peut-être ?
Une autre, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le shonen, c'est plutôt tourné sur quelque chose qui est très actif, avec beaucoup de scènes d'action, avec c'est quelque chose aussi où on a de l'aventure, si on peut catégoriser ça comme vraiment un registre aventure, avec de l'action mise en avant. Le seinen, c'est un petit peu plus complexe parce que on raconte une histoire. Et dedans vont s'entremêler beaucoup de thèmes et de registres différents, à savoir qu'à un moment donné, si les personnages vont tomber amoureux, on va mettre en avant le registre sentimental. Si les personnages ou l'émotionnel, si les personnages vont aller dans une quête et qu'ils vont devoir affronter d'autres personnages, on va passer dans le registre actif avec des scènes d'action, etc. Si à un moment donné, on a quelque chose qui va plus s'axer sur la vie quotidienne, on passera plus dans le registre graphique et contemplatif. Donc, en fait, l'intérêt du seinen, à part le fait que ça s'adresse à un public un peu plus mature, c'est qu'on peut raconter une histoire sans forcément devoir rentrer l'histoire dans une case et définir l'histoire par rapport à cette dernière. On raconte une histoire et vont s'enchaîner différents registres au fur et à mesure qu'on va dérouler l'histoire.
Eh ben, merci pour ces explications. Je serai un peu moins novice côté manga. Vanra, dans la saga justement Stray Dog, vous évoquez la légende française de la bête du Gévaudan. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un moyen de créer des ponts entre guillemets, je dirais, le folklore français et la culture manga ?
Pas forcément, parce qu'encore une fois, pour moi, le manga, c'est vraiment un support d'expression. Qui s'est finalement imposé à moi, puisque, encore une fois, au départ, c'était pas forcément ce que j'avais choisi au départ, c'est ce qui m'est apparu nécessaire pour m'exprimer comme je le souhaitais. Après, le fait d'avoir mis en place comme fond d'histoire la bête du Gévaudan, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me touche de près, dans le sens où c'est une énigme judiciaire française. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'aller forcément chercher très très loin pour avoir un mythe. Hein. On a, à Londres, Jacques l'Éventreur qui a été vu, revu, mais nous, on a notre propre mythe, entre guillemets, français, et quelque chose qui n'a pas été élucidé et dont on n'a pas forcément envie d'élucider, puisque le mystère est entier, alors qu'on a encore dans la région tous les stigmates, justement, de ce fait-là, avec les enseignes des commerçants qui ont dedans les armoiries de la bête, on a encore la monnaie qui est encore frappée aussi des armoiries de la bête, on a encore les régions ou les villages qui font partie donc du Gévaudan, parce que c'est une région hein, plus que qui englobe plusieurs contrées, qui possède justement le souvenir de cette attaque passée. Quand on va dans les mairies des communes qui ont été touchées par les attaques de la bête, on a les registres qui sont compulsables. Donc tout ça fait que c'est quelque chose qui a existé. On a quand même eu plus de 300 victimes recensées, et encore c'est celles qui ont seulement été recensées. Et finalement, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a été à l'origine de l'éradication du loup en France, au final. Donc ça aussi, si on partir de ce côté-là, on a éliminé une espèce pour justement couvrir et essayer de déterminer ce qui s'est passé. Ça n'a jamais rien porté. Ça a remis en cause jusqu'au pouvoir de l'Église, au pouvoir du roi qui était en place à ce moment-là. Et tout ça, finalement, on va dire c'est presque anecdotique, alors qu'on a quand même eu plus de 300 victimes qui ont été recensées. Donc pour moi, c'est quelque chose, je traite énormément de mythes et légendes dans tout ce que je fais, parce que le folklore, ça fait aussi partie de la culture avec un grand C, et j'adore tout ce qui est histoire, tout ce qui est civilisation de manière générale, et ça rentrait finalement dans le folklore français. Et c'est vrai que ça m'intéressait de faire une histoire là-dessus, au-delà du fait que bah, ça me permettait aussi de mettre en avant différents thèmes par l'intérieur du héros qui lui-même est la bête du Gévaudan, tel que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, le deuil, la rédemption, également l'humanité d'un être. Qu'est-ce qui fait que l'on peut se targuer d'être humain? Est-ce que c'est les faits, enfin, c'est nos actions? Est-ce que ce sont notre manière de réfléchir ou de concevoir les choses, ou est-ce que c'est le fait d'être né humain tout simplement? C'est ça que moi, dans mes BD, je mets souvent en avant des personnages et des héros qui ne le sont pas, qui sont pas humains. Là, par exemple, dans Stray Dog, bah, ça sera la bête du Gévaudan. Dans Morticienne, ça sera également un loup-garou. Dans Ayakashi, ça sera comment ça s'appelle, une sorcière, par exemple. Parce que je veux pousser le lecteur à réfléchir et à dépasser finalement les idées préconçues, à se dire oui, mais finalement, moi, si j'avais croisé telle personne, est-ce que je me serais arrêté à son apparence? Est-ce que je me serais arrêté finalement à ce qu'on dit de lui? Ou est-ce que je me serais intéressé à la personne? Au final, ces personnages-là, mis en scène, se révèlent être finalement très humains et très souvent bah, bien plus humains que ceux qui se targuent de l'être de base de naissance.
Ok. Donc j'ai bien compris comment vous choisissez finalement vos personnages et vos histoires. Hein. Vous aimez faire des recherches, vous aimez quand vous évoquez quelque chose, on sent qu'autour, vous maîtrisez le sujet. Vous avez fait les recherches qui font que vous ferez pas, vous n'allez pas faire d'erreur, voilà, déjà dans vos mangas. Et puis c'est pas un hasard du tout, c'est ce qu'il faut se dire. Vanra, rapidement, est-ce que vous avez des projets à venir?
Bah là, oui, puisque j'ai plusieurs séries qui sont signées déjà et qui vont paraître bientôt au catalogue d'éditeurs, notamment bah, Neverend qui va arriver dès que le tome 3 d'Ayakashi sera fini, ce sur quoi je suis en cours. Stray Dog 6 va bientôt arriver donc en librairie, puisque là le tome a été fini il y a quelques temps et donc il est en cours de correction, donc ça arrive. Et puis bah après, il y a un autre projet sur lequel je voudrais présenter aux éditeurs, qui va traiter pareil du handicap, là pour le coup, sans connotation fantastique dedans. Et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que travailler avec des gens qui vraiment faisaient partie de ma patientèle, donc voilà, donc c'est ce que je peux annoncer sans trop en dire, parce qu'effectivement on est dans un milieu assez compétitif, donc si je peux espérer que ça soit une bonne idée, si jamais ça l'est, effectivement j'aimerais la garder pour un projet signé Vanra et non pas signé sous quelqu'un d'autre, quoi.
Ah bah vous avez bien raison, Vanra. Eh bien, écoutez, on va inviter les auditeurs de Grand Sud FM à venir vous retrouver sur le stand numéro 9, la librairie BD et compagnie. Les adultes, aussi bien que les enfants, sont attendus, puisque vous me disiez tout à l'heure, il y en a un petit peu pour tous les goûts et pour tous les publics.
En fait, on a, quand je dis writing, c'est-à-dire ça peut commencer à partir d'un certain âge, mais après, les BD peuvent être lus par n'importe qui à partir de l'âge donc conseillé. Si on part sur un Ayakashi conseillé pour un public un peu plus jeune, bah, c'est à partir de 10 ans. Mais encore une fois, quelqu'un d'adulte peut aussi lire Ayakashi. Pour Stray Dog et Morticienne, ce sera à partir de 14 ans. Mais encore une fois, moi, j'ai un de mes lecteurs, il a plus de 102 ans. Donc, et il est toujours là quand je suis en dédicace dans sa région. Donc voilà, et c'est un féru d'histoire, un féru de folklore effectivement local. Et il avait acheté pour justement lire quelque chose sur la bête du Gévaudan. Et il est toujours là à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Donc voilà, comme quoi, il n'y a pas de limite.
Ouais, et il n'y a pas d'âge hein, pour venir vous voir. Vous êtes là aujourd'hui et demain, Vanra, ou uniquement aujourd'hui?
Je suis là aussi demain et vous pouvez venir n'importe quand sur le stand. Je serai là puisque je ne prends pas de pause.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle, Vanra, que vous êtes une pionnière du manga français. N'oubliez pas, stand numéro 9, librairie BD et compagnie. Ça se passe sur le cours Mirabeau pour cette 8e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne. Merci, je vous laisse continuer parce que je crois que les gens vous attendent également.
Merci à vous tous et puis en espérant vous y retrouver nombreux.
Merci Vanra, à bientôt. Donc voilà, on va continuer sur Grand Sud FM. Je vais aller rejoindre Lisa qui nous attend sur un autre stand. Alors je suis en train de regarder, c'est le stand numéro 3 et on va retrouver Rachid Benzine. À tout à l'heure.
À tout à l'heure Marilyn. Et sur Grand Sud FM, on écoute Hélène Segarra et Lara Pozzani. Grand Sud FM. Bon samedi après-midi avec nous sur Grand Sud FM, 14h45. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne. On va retrouver Marilyn avec une nouvelle invitée.
Effectivement, Jean-Michel, nous sommes sur le Salon du Livre du Grand Narbonne et même s'il fait chaud cet après-midi, je vous invite à venir y faire un petit tour, à rencontrer les auteurs qui vous attendent impatients. Je suis en compagnie de Rebecca Benamou qui est présente sur le stand numéro 3 avec la librairie Cagélis et Rebecca qui sera là aujourd'hui mais également un petit peu demain matin, mais venez plutôt la voir aujourd'hui avant 19h, je peux vous le dire. Rebecca qui sera en compagnie de Carmen Castillo tout à l'heure à 17h30 à l'espace rencontre du Salon du Livre, avec une table ronde qui a pour thème l'exil et le fantasme du pays perdu, une thématique qui les touche toutes les deux, vous verrez, mais de manière différente. Tout d'abord, on va saluer Rebecca, bonjour.
Bonjour.
Donc Rebecca, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, on parlera ensuite de votre premier roman, Les Habitués du Temps Suspendu. Vous, vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, et je le disais tout à l'heure, vous êtes classée parmi les 5 jeunes écrivains suivants en 2019, et ça c'est le magazine Vogue qui le dit.
Oui, ça fait toujours plaisir à entendre. Oui, en effet, bah, écoutez, je suis journaliste depuis une dizaine d'années et jusqu'à présent, j'ai publié surtout des essais. Et là, c'est mon premier roman, donc c'est un petit passage particulier pour moi.
Alors, ce roman, on va en parler. Ce premier roman qui s'appelle Les Habitués du Temps Suspendu. Dans ce roman, Rebecca, vous oscillez, on va dire, entre le fantasme du pays que l'on perd et celui que l'on reçoit en héritage. Vous nous expliquez un petit peu?
Oui, en fait, je parle de l'Algérie, qui est le pays de ma famille maternelle. Je parle en fait d'une histoire inspirée d'une histoire familiale que je transpose en fiction. Mais globalement, voilà, il s'agit de l'histoire de mon grand-père qui a quitté l'Algérie en 62 et qui n'y est jamais retourné. Moi, c'est un pays que j'ai, comme je l'ai dit dans le livre, en fait, que j'ai reçu en héritage, mais que je ne connais pas. Et donc, c'est ma façon d'approcher ce pays sans y avoir jamais été. Et en essayant de faire mien tous ces souvenirs dont j'ai hérité, toutes ces photos, toutes ces histoires, et essayer d'en faire un travail de fiction.
Et justement, Rebecca Benamou, qu'est-ce qui vous rapproche de Carmen Castillo pour la rencontre de ce soir?
Alors, à la différence de Carmen, qui elle est retournée au Chili après l'avoir quittée en 1974, me semble-t-il, moi, je fantasme vraiment sur le pays qu'est l'Algérie, sur le pays de ma famille, puisque je n'y ai jamais été. J'ambitionne d'y aller assez prochainement, mais en fait, pour l'écriture de ce livre, j'avais envie de regarder toutes ces histoires à travers le miroir grossissant de la mémoire, de m'ancrer dans tout ce que ma famille m'avait raconté et d'essayer d'en faire quelque chose de bien à moi, de l'ancrer dans mon présent à moi. Donc ça reste un travail de fiction très inspiré de faits réels. Mais voilà, contrairement à Carmen Castillo qui connaît forcément bien le Chili, moi je ne connais pas l'Algérie.
Mais ça va venir. Et qui sait, peut-être ça vous inspirera un deuxième roman?
Pourquoi pas, ça serait avec plaisir.
Alors ce soir, on vient, enfin je dis ce soir, à 17h30. On vous donne rendez-vous, les auditeurs de Grand Sud FM, à l'espace rencontre du Salon du Livre. C'est gratuit hein, pour assister à la table ronde. Vous savez comment ça va se passer? Vous serez avec Aline Béraud, qui est la sous-directrice de la médiathèque du Grand Narbonne. Et donc, comment ça va se passer?
Alors j'ai l'impression que ça va être une discussion assez spontanée où Carmen Castillo et moi-même allons parler de nos livres et voilà, je pense que ça va être une discussion assez ouverte et modérée justement par, enfin animée par Aline Béraud avec qui j'ai bien hâte de discuter justement.
Alors vous, c'est pas votre premier salon du livre, c'est peut-être le premier à Narbonne en tout cas?
Tout à fait, premier salon à Narbonne et première fois que je viens à Narbonne, donc d'autant plus ravie d'être là.
Avec une chaleur qui est au rendez-vous aujourd'hui. Donc, vous attendez les auditeurs de Grand Sud FM. C'est quelque chose que vous aimez, cette rencontre avec le public?
Oui, j'adore ça parce que c'est le moment où on peut rencontrer les gens qui nous lisent, où on peut rencontrer les gens qui vont nous lire. Et on peut donner envie aux gens de nous lire également. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on écrit la plupart du temps dans l'intimité de notre appartement, coupé du monde. Alors, en fait, le moment où on se confronte un peu au monde extérieur, c'est toujours avec un peu d'appréhension, mais avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Donc non, moi, je suis très contente d'être là.
C'est ce que beaucoup d'auteurs me disent. On est un peu seul quand on écrit, fermé, et là, c'est un grand moment de pouvoir échanger avec le public. Bah, le public, on l'invite à venir vous rejoindre, Rebecca Benamou. Je vous rappelle, stand numéro 3, librairie Cagélis. Venez aujourd'hui la rencontrer avant 19h, et puis venez rencontrer Carmen Castillo, qui est sur le stand juste en face, le stand numéro 17 de la librairie Libellis. Voilà, et la rencontre ce soir, c'est 17h30, 18h. 15. Merci beaucoup Rebecca Benamou. Je vous laisse retourner voir vos lecteurs qui vous attendent. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Allez, on va continuer avec ce salon du livre du Grand Narbonne sur Grand Sud FM. On a un prochain invité qu'on ne connaît pas encore puisque l'auteur qu'on attendait n'est pas arrivé. Mais vous inquiétez pas, il y a une centaine d'auteurs sur ce salon et nous allons en trouver d'autres. Allez, à tout à l'heure Jean-Michel.
Merci Marilyn, à tout à l'heure. Tout de suite, musique avec Bill Medley et Jennifer Warnes, The Time of My Life. Bill Medley et Jennifer Warnes sur Grand Sud FM avec The Time of My Life. 14h55, bon samedi après-midi à vous toutes et à vous tous. Nous repartons au Salon du Livre de Grand Narbonne, retrouver Lisa et son invité.
Et oui Jean-Michel, nous sommes en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne, en direct du Cours Mirabeau de Narbonne. On invite bien sûr les auditeurs de Grand Sud FM à nous rejoindre. Et je suis en compagnie de Julie Estève. Bonjour Julie Estève.
Bonjour Lisa.
Alors vous êtes autrice du livre « Presque le silence », votre troisième roman, vous pouvez nous le présenter un petit peu ?
Oui, alors effectivement c'est mon troisième roman, il parle d'une femme qui s'appelle Cassandre et c'est sa vie de son enfance à sa mort, c'est 10 chapitres dans la vie d'une femme, 10 grandes pertes. Et en même temps qu'elle va perdre et vieillir, l'écriture va l'accompagner, et en même temps qu'elle va perdre et vieillir, le monde va se détériorer avec elle. C'est finalement l'histoire d'une femme et d'une fin du monde.
C'est la question de la perte qui a mené à votre écriture au cours de ce roman ?
Oui, effectivement, vivre, c'est apprendre à perdre. C'est fou ce qu'on peut perdre dans une vie, et la vie, c'est finalement un processus de démolition et de création. Et puis, il faut toujours se familiariser avec cette idée que les choses ne sont pas éternelles.
Est-ce que pour vous, ce roman, il a une portée thérapeutique, puisqu'on sent que c'est une question quand même à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, la question de la perte ?
Oui, alors j'ai écrit dans une forme d'inquiétude extrême, une éco-anxiété, on pourrait pas appeler ça aujourd'hui, pénétrée par l'état catastrophique du monde. C'est réjouissant comme comme obsession. Je voulais traiter absolument de ça, de cette tragédie collective que nous sommes en train de vivre. La tragédie n'appartient plus aux seuls humains, elle appartient aux vivants, aux animaux, aux terrestres. C'est une tragédie collective. Donc moi, j'écris pour ne plus avoir peur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, mais le monde ne va pas forcément mieux.
Et la question aussi de l'histoire d'une femme. Vous m'avez dit que c'est l'histoire d'une femme en 10 chapitres. Pourquoi avoir choisi une femme ?
Dans mon précédent livre, c'était un homme. Là, une femme, je trouvais qu'une tragédienne, c'était pas mal. Elle est rousse. Au départ, elle est moche et puis elle devient belle. Et puis voilà, elle se transforme, elle n'arrête pas d'évoluer. Je voulais embrasser une vie entière. Voilà. Explorer toutes les sortes de pertes. On perd sa virginité, on perd les os, on perd la raison, la mémoire, etc. On perd des gens. Donc voilà, c'était vraiment tourner autour de ce grand mot qui est perdre, ce verbe perdre.
Julie Estève, vous serez dans quelques heures à 16h30 à la péniche du Solal, à l'occasion du Salon du Livre du Grand Narbonne. Je le rappelle, sur le cours Mirabeau, j'invite bien sûr tout le monde à venir nous rejoindre. Vous allez faire une lecture de votre livre. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez hâte de rencontrer vos lecteurs ?
Oui, bien sûr. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Christelle est venue me voir tout à l'heure. Je pense qu'on va parler de mes 3 livres. J'en lirai sûrement un extrait du dernier, peut-être.
Voilà, donc l'occasion de rencontrer Cassandre, le personnage de votre livre, cette jolie femme rousse.
Voilà, je vous attends.
Voilà, on invite bien sûr les auditeurs de Grand Sud FM à venir découvrir ce livre de Julie Estève, Presque le silence, et pourquoi pas à l'occasion de cette rencontre qui a lieu sur la péniche Le Solal à 16h30. Pour conclure, Julie Estève, est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous aimeriez nous parler ?
Oui, je suis en train d'écrire un livre à 4 mains avec une amie autrice qui s'appelle Agnès Van Wong. On commence à peine. Voilà.
Voilà, donc des projets en cours et des belles choses à venir. Merci Julie Estève d'avoir été avec nous. Les auditeurs, restez bien branchés sur Grand Sud FM puisqu'on a encore une dernière autrice à vous présenter sur le Salon du Livre du Grand Narbonne. Et puis bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, il fait extrêmement chaud, c'est très agréable. Il y a plein d'auteurs à rencontrer, donc on vous invite à nous rejoindre.
Merci Lisa, on se retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, place à la musique sur Grand Sud FM. Grand Sud FM. Le comic strip de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot sur Grand Sud FM. Passez un excellent samedi après-midi. On retourne sur le cours Mirabeau à Narbonne pour le Salon du Livre du Grand Narbonne. Et on retrouve Marilyn avec un nouvel invité, une nouvelle invitée.
Oui, Jean-Michel, je suis en compagnie de Carmen Castillo qui est arrivée, qu'on devait retrouver tout à l'heure avec Rebecca Benamou. Je vous rappelle que toutes les deux, elles seront tout à l'heure à 17h30 jusqu'à 18h15 à l'espace Rencontre pour une animation table ronde, l'exil et le fantasme du pays perdu. Donc Carmen, bonjour.
Bonjour, heureuse d'être avec vous ici.
Alors Carmen, vous êtes écrivaine, vous êtes cinéaste franco-chilienne.
Oui.
Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes venu en tant qu'auteur pour Un jour d'octobre à Santiago et puis suivi de Lignes de fuite, mais ça, on en parlera après. Vous êtes résistante chilienne sous le gouvernement Pinochet. Vous êtes exilée?
Oui, je suis donc arrivée en France expulsée de mon pays, blessée, enceinte, après la mort de mon compagnon, qui était le chef de la résistance au Chili. Et j'arrive donc jeune en exil. Et il a fallu traverser, peut-on imaginer quoi, de ce qui implique cette perte, ce qui a été la dictature de Pinochet qui a écrasé la vie d'un peuble, un rêve réel, que sous Allende, nous vivions une démocratie socialiste, réelle, avec une société entière en état amoureux. Donc le coup d'État chilien de Pinochet a ébranlé, cassé, brisé des vies très importantes de nous tous. Et on n'a pas coupé ce téléphone.
Mais il n'y a aucun problème, Carmen. Allez-y, coupez le téléphone. Hein, on ne vous en voudra pas, aucun souci.
Voilà. Bon, donc dans cette histoire de... prendre corps à corps l'exil en France, que j'ai choisi ce pays parce que j'étais de culture française et que j'ai reçu, vous devez imaginer qu'en France, il y avait 600 000 jeunes et moins jeunes organisés dans des comités Chili. 600 000 partout en France. Donc l'accueil des réfugiés politiques chiliens était extraordinaire. C'était un autre temps. La France était une autre. Mais voilà, ça a été mon pays et il a fallu que je détruise la nostalgie et que je vive à fond les rencontres, surtout les rencontres avec la fraternité, l'amour, l'amitié, l'empathie, la solidarité et la culture française. Et à partir de là, j'ai écrit un premier récit, un récit publié donc en 1980. Un jour d'octobre à Santiago, où je voulais raconter en français à mes amis français que nous n'étions pas des héros, qu'on était des gens comme tout le monde, qu'on aimait et qu'on avait traversé la torture, la mort, mais pour vivre.
Donc c'est un roman qui est plus que touchant. Un jour d'octobre à Santiago, à venir découvrir. Et puis on a suivi de Lignes de fuite. Et là vous nous expliquez, c'est pas la suite?
Non. C'est un deuxième récit écrit à chaud. Si le premier m'a pris des années, en tout cas trois longues années, ce récit Ligne de fuite est un récit cru sur ce premier retour autorisé que mon père a arraché au dictateur. Il était malade et j'ai pu aller le voir 15 jours. Et là, je raconte ce pays qui avait totalement changé, que je rejetais, dans lequel je ne pouvais plus y être. Je ne voyais que des tortionnaires et des collabos et l'indifférence et la société néolibérale parfaite que la dictature de Pinochet avec les Chicago Boys avait implantée. Une société de l'argent, de l'amnésie, de l'oubli. Donc c'est un récit cru.
Et aujourd'hui, vous retournez au Chili de temps en temps, Carmen?
Beaucoup. Et en fait, je suis devenue cinéaste dans les années 90. Et à partir de là, je suis retournée pour filmer des histoires qui ont à voir avec ce combat contre l'oubli. La mémoire des vaincus est une énergie pour les jeunes générations. Aujourd'hui, c'est nos films, nos livres qui entrent dans la bataille chilienne dans laquelle on combat le fascisme pinochetiste. Comme partout dans le monde, l'histoire n'est jamais close. Et donc la mémoire, les écrits, ce qu'ils peuvent faire, les artistes, les écrivains, les cinéastes, pour ramener l'esprit des morts dans la bataille politique du présent. Et nous avons au Chili beaucoup d'espoir parce que nous avons un jeune président élu grâce à nous aussi, grâce à ce combat.
On vous sent marqué par tout ça. On sent que vous êtes encore très émue par tout ça, Carmen Castillo.
Bien sûr, je crois que, comment dire, je crois qu'on se construit peut-être plus par les pertes que par l'accumulation qui est l'idéologie dominante dans laquelle on vit, mais c'est douloureux. Et arrivé à un certain âge, puisque je suis maintenant âgée, je m'aperçois que effectivement la douleur de l'exil ne finit jamais, ou l'expérience, on est, une fois qu'on est exilé, et on ne le sait pas tout de suite, on l'est pour toujours. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir deux pays est compliqué, complexe, et je le vis comme au premier temps. Je pense que dans des destinées comme ça, les trajectoires se font avec des hauts et des bas, comme pour tout le monde, sauf que me voilà avec ce désir du pays et ce désir de la France où j'ai mes amis, mes complicités, des enfants dans les deux pays, des familles dans les deux pays, des amis dans les deux pays. C'est pas commode.
Mais écoutez, c'est très touchant en tout cas. On invite les auditeurs de Grand Sud FM, Carmen Castillo, à vous retrouver avec Rebecca Benamou, qui a un tout autre point de vue, et je pense que ça va être une rencontre très très intéressante. 17h30 à 18h15, une animation table ronde. Je vous rappelle le thème, mais vous l'avez compris, je pense. L'exil, ça c'est pour la partie de Carmen, et le fantasme, ça c'est pour la partie Rebecca, du pays perdu. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Carmen, merci beaucoup, vous êtes là aujourd'hui et demain encore?
Oui, demain matin aussi au salon, et voilà.
Donc on invite les auditeurs de Grand Sud FM à venir échanger avec vous, à venir acheter vos romans, vos ouvrages, donc sur le stand numéro 17, la librairie Libellis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
Merci beaucoup. À tout de suite.
Voilà, c'est comme ça sur ces quelques mots qu'on va terminer pour aujourd'hui avec la 8e édition du Salon du Livre du Grand Narbonne. Donc, bien évidemment, on sera encore là demain matin de 10h à 11h avec d'autres auteurs. Restez à l'écoute de Grand Sud FM. On va essayer de vous partager un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis, venez voir la centaine d'auteurs qui vous attend quand même, qui vous attend aujourd'hui sur le cours Mirabeau. Voilà, Jean-Michel, je vais te laisser reprendre la suite. Je voulais juste remercier Spot Communication, qui est à Narbonne, qui nous a offert les t-shirts de Grand Sud FM pour ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Il fait plein d'objets publicitaires et vous pouvez aller le voir, il n'y a aucun problème. Voilà, merci Jean-Michel. À demain à tous les auditeurs. Demain, rendez-vous à 10h sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Bon après-midi.
Merci Marilyn, merci à Lisa. Et puis, prochain rendez-vous donc avec le Salon du Livre du Grand Narbonne demain matin à partir de 10h. Passez un excellent samedi après-midi. Retour à la musique. Tout de suite, on va écouter Ben, l'Oncle Soul avec Imagine.